en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y a des écrivains qui donnent beaucoup de leur personne pour écrire un livre. Assurément, Emma Becker en fait partie. Pendant plus de 2 ans, elle a travaillé dans une maison close de Berlin. Elle en a tiré un roman pas putassier pour 2 sous, une chronique douce amère de la vie des prostituées et de leurs clients qui en dit long sur notre rapport au sexe, à l'amour, à l'argent. La maison est publiée chez Flammarion et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Emma Becker.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans ce roman, il y a des phrases très fortes. Souvent, qu'on remarque à peine parce qu'elles sont tapies comme ça au milieu d'un chapitre, un peu l'air de rien, mais qui disent énormément de choses. Et j'aurais commencé en citant l'une d'entre elles, se trouve à la page 230. Je vous cite, « Ce n'est ni un caprice, ni une fantaisie d'écrire sur les putes, c'est une nécessité. » Pourquoi écrire sur ces femmes était-il non seulement utile, mais nécessaire ?
Et il me semble que il y a dans la condition de la pute quelque chose de qui en dit beaucoup sur la condition de la femme en général, c'est-à-dire la façon dont on a essayé depuis le début de l'humanité d'enfermer la femme dans un rôle qui était reproducteur ou alors une fonction, enfin la fonction de donner du plaisir à l'homme. Donc ce que je voulais dire par cette phrase, c'est-à-dire qu'en comprenant les putes, on comprend quand même beaucoup du fonctionnement des femmes. Il me semble que c'est une nudité qui est très très intéressante à explorer et à décrire.
Du fonctionnement des femmes. Moi, je pensais que vous alliez dire du fonctionnement de la société.
Oui, de la société aussi, mais enfin, quand on est femme et qu'on grandit dans cette société-là, forcément, cette espèce de rapport de « je suis là pour donner du plaisir aux hommes », c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement les putes. C'est-à-dire que cette habitude, enfin, peut-être ce réflexe qui est appris de faire semblant que tout va bien, de simuler, de jouer, en fait, est quelque chose qui, selon moi, se rapporte beaucoup à la condition féminine avant même d'être celle des putes.
Alors, beaucoup d'écrivains désireux d'écrire sur la prostitution seraient allés voir des associations, auraient rencontré des professionnels, des sociologues, des psychologues, des historiens, que sais-je. C'est peut-être ce que vous avez fait dans un premier temps.
Non, enfin, peut-être ça c'est une position d'homme aussi, de vouloir se renseigner tout en restant à l'écart. J'ai quand même l'impression que c'est le genre de métier qu'on ne peut pas comprendre à moins de l'avoir pratiqué, parce que ce qui se passe à l'intérieur de ces femmes, ça c'est très intéressant. Ce qui se passe entre les hommes et les femmes, l'argent, le fonctionnement, ce qui se passe dans les chambres, à la limite c'est secondaire, mais ce que ce métier produit sur une femme, sur son désir, sur son appréciation d'elle-même, ça, il me semble que c'est intéressant et on ne peut pas se passer de l'exercice du métier.
Donc vous avez choisi l'immersion, comme on dit dans le journalisme, hein. C'est vrai que certains journalistes comme ça qui font une enquête ou un reportage décident pendant un temps relativement limité de vivre la vie de ceux qu'ils vont parler, mais c'est pas un livre de journaliste, c'est vraiment un livre d'écrivain. Vous expliquez là aussi au détour d'une phrase que la frontière entre le roman et le journalisme est parfois un peu ténue. Où est-ce que vous la situez justement cette frontière, Emma Becker ?
C'est-à-dire que moi j'ai commencé ce livre avec une mentalité qui était peut-être plus journalistique que la façon dont en fait le bouquin s'est terminé. J'ai commencé dans un bordel où vraiment je me sentais pas à mon aise où je trouvais pas ma place. Donc du coup l'écriture est très différente. Après, quand je vais à la maison et que je rencontre ces femmes, l'immersion, en fait, devient très instinctive, très naturelle, et du coup, devient plus... Le livre est plus une expérience de femme qu'une expérience journalistique. Après, la différence entre journalisme et roman, moi, je la situe... C'est-à-dire que c'est un métier qui a un tel rapport avec la fiction que c'est difficile de garder une distance d'écrivain. Je la garde parce que je suis écrivain. Mais
vous revenez régulièrement sur les conditions dans lesquelles vous écrivez le livre. Exactement. Et vous entrevoyez vos personnages, qui sont deux personnages.
Qui sont deux personnages, mais on pourrait aussi dire, enfin je veux dire, c'est aussi un roman parce que beaucoup des femmes dont je parle ont été réinventées à partir de mes souvenirs. J'y ai aussi mis mes affects à moi, parce que je ne prétends à aucun moment comprendre la psychologie des femmes qui travaille avec moi. J'y appose mes affects à moi parce que j'y ai aussi travaillé. Donc j'essaie de rentrer dans leur tête tout en gardant, ne perdant pas de vue le fait que je suis toujours dans ma tête à moi.
Mais justement, on est dans la reconstruction romanesque, on est dans le récit ou on est de temps en temps dans une forme d'autofiction ?
Moi, j'ai tendance à penser que c'est de l'autofiction. Après, reconstruction romanesque, c'est vrai que ça me plaît beaucoup parce que l'histoire est vraie. Enfin, ce que je raconte dans le livre est vrai. Après,
tous les faits se sont déroulés comme vous le racontez.
Pratiquement, c'est-à-dire qu'il y a des nuances qui sont aussi des nuances littéraires. Il y a certains moments de mon écriture où je me sentais prise d'une pudeur pour une raison ou pour une autre que je m'expliquais pas très bien, où je pouvais faire passer des histoires qui m'est arrivé à moi dans la bouche d'autres femmes qui sont d'ailleurs pas les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont vraiment des créations de l'esprit, des personnages que j'ai inventés en y mettant des éléments des femmes que je côtoyais quotidiennement.
Alors avant de venir à la littérature elle-même et au contenu du roman, Emma Becker, je voudrais qu'on parle rapidement des quelques raisons personnelles qui vous ont aidé aussi à franchir le pas. Une forme d'insatisfaction aussi dans votre vie amoureuse, parce que vous évoquez deux de vos amants, Joseph et Stéphane. On peut dire que l'absence de l'un et la présence de l'autre ont joué un rôle dans ce roman ?
Ça a joué un rôle dans la mesure où effectivement je suis arrivée à Berlin après une rupture et donc j'avais...
Rupture avec Joseph.
Exactement. Donc j'avais un tableau vierge devant moi et j'étais libre de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et mes motivations ont été déjà la fascination que j'avais depuis toute petite pour l'endroit de la maison close qui est depuis très longtemps proscrit en France. Et d'arriver à Berlin et de m'apercevoir qu'en fait ces endroits avaient pignon sur rue, pour moi c'était une occasion extraordinaire d'écrire quelque chose là-dessus et également de faire ce métier que j'avais envie d'essayer d'exercer. C'était une espèce d'expérience avec moi-même.
Mais depuis longtemps, c'est-à-dire que vous vous êtes dit un beau jour, ce serait quand même formidable d'essayer, avant même de penser au livre.
C'est-à-dire, oui, parce que ça jamais vraiment été, c'était pas un fantasme, ça n'avait rien de sexuel, mais c'était une espèce de recherche sur la féminité. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que je trouvais très puissant, très fascinant chez les putes, et de pouvoir se poser comme ça en représentation du désir, en une espèce de déesse, finalement, était quelque chose qui m'intriguait énormément.
Alors, il y a un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, c'est le mot pute. Vous imaginez peut-être que ça a choqué certaines oreilles. Quelle est la tonalité que vous placez derrière ce mot qui intervient très souvent dans le roman, beaucoup plus que le mot prostituée, beaucoup plus que le mot fille. Par exemple, c'est vraiment le mot pute qui revient comme ça tout le temps, comme un leitmotiv. Quelle tonalité a-t-il pour vous ?
Pour moi, c'est un mot très tendre et aussi je trouve que ce mot est utilisé à tellement mauvais escient, pour tellement de mauvaises raisons.
C'est une insulte.
C'est une insulte. Moi, je trouve que c'est un mot qu'on doit... je considère, moi, qu'il est important de se le réapproprier. Parce qu'en fait, quand on traite une fille de pute, généralement, c'est pas du tout ce qu'on veut dire par là. Je trouve qu'il est bon de remettre les choses à leur place. Le mot pute, pour moi, n'est pas une insulte. Par contre, le mot de prostituée, qui, je trouve, dans sa tonalité passive, a quelque chose d'humiliant et de pas juste du tout. Il n'y a aucune notion de passivité. Enfin, dans ce boulot-là, il n'y a aucune passivité. Et prostituée, je trouve que c'est vraiment un mot qui donne l'impression que les nanas n'ont pas le choix, qu'elles sont des victimes, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent de faire ce métier.
Tainted Love, Gloria Jones dans VMDN sur RFI, une des chansons qui parsème votre livre La Maison Emma Baker que vous publiez chez Flammarion et qui forme d'ailleurs comme ça une forme de bande-son d'un bout à l'autre du livre. Pourquoi c'était important de donner à ce récit une tonalité musicale?
Bah parce que la musique était pour moi une grande partie du boulot, c'est-à-dire qu'il y avait dans la maison constamment des haut-parleurs sur lesquels passaient des musiques un peu bébêtes d'ascenseur. Et bon, ça va pour un temps, mais après, c'est vrai que quand je me suis installée et que cette maison est devenue ma maison à moi, j'amenais mon portable avec mes playlists que je branchais sur la machine. Et en fait, cette playlist dans mon livre est la playlist qui m'a accompagnée tout au long de ces 2 ans et demi que j'ai passé à travailler.
Alors La Maison, c'est donc un livre que 5 de nos auditeurs pourront gagner tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission en répondant à la question que je vous poserai à l'antenne. Et quand s'ouvre le livre, la maison Emma Baker, elle a fermé depuis 5 mois. Vous en avez gardé chez vous quelques objets, quelques souvenirs et vous retournez la visiter, vous retournez le voir, ce bâtiment qui se trouve, écrivez-vous, à cheval entre un lieu saint et une école maternelle, ce qui peut évidemment faire un petit peu sourire. Vous y retournez pour retrouver, dites-vous, l'âme de cet endroit. Comment est-ce que vous pourriez en quelques mots de décrire l'âme de la maison?
Mais l'âme de la maison, je pense que c'était déjà la patronne
Inge.
Désirée. Qui a monté cet endroit de ses mains en fait en travaillant déjà dans sa jeunesse et puis petit à petit, elle a acheté des appartements et c'est devenu la maison. Et l'âme de cet endroit, je pense que c'est la bienveillance qu'on sentait des femmes entre elles, de la direction pour ces femmes et cette notion d'amour et de jamais forcer les filles à faire quoi que ce soit, même si en vrai, leur métier, c'est de ne jamais refuser.
Bon, c'est très différent de ce que vous avez vécu dans le premier endroit où vous êtes allé, le manège. On va en parler dans un instant. Mais je voudrais qu'on reste à l'intérieur de la maison. Vous nous faites découvrir, à travers vos mots, les lits, les commodes, les guéridons, les rideaux, les coussins, etc. Mais c'est surtout, ce qui est frappant, c'est surtout par l'odeur que vous nous faites pénétrer dans la maison. L'odeur, elle revient vraiment très très régulièrement comme ça. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, l'odeur d'un endroit comme celui-ci?
C'est-à-dire, c'est pour moi maintenant un peu l'odeur des maisons dans lesquelles on a grandi et on pourrait pas la décrire, mais parfois, dans la journée, ça vous prend. En un éclair, vous vous souvenez exactement de cette odeur et ça vous ramène à des années que vous pensiez avoir complètement oubliées. Donc, comme je le décris, c'est un mélange de lessive, un mélange de parfum, de sueur, de poussière. C'est un mélange impalpable, mais c'est vrai que c'est un livre qui, par nécessité aussi, parle beaucoup d'odeur, parce que c'est une partie essentielle du métier. Et parce que la maison était tenue comme elle était tenue, j'avais quand même encore accès à ce régal des sens, quoi, à ce bonheur de sentir cette odeur, de sentir mes collègues.
Donc c'est une odeur agréable.
C'est une odeur très agréable.
Alors il y a l'odeur et puis il y a les couleurs aussi, parce que chaque chambre a une teinte qui lui donne son nom. Il y a la blanche, la mauve, la dorée, l'argentée, la rouge, la verte, etc. Il y a aussi la tropicale et la clinique qui correspondent à des fantasmes spécifiques de certains clients et qu'il convient effectivement de satisfaire. Et puis il y a une chambre un peu particulière, un peu à part, qu'on appelle le studio.
Oui. Le studio qui est en fait une espèce de petite pièce rouge et noire où les clients venaient pour dominer des filles ou se faire dominer par des filles. Enfin, c'était réservé au rapport un peu sadomaso, mais enfin, c'était quand même un bordel bourgeois, donc on sentait bien que c'était un jeu. Il y avait rien. C'était pas un studio de domination comme il en existe à Berlin.
Alors vous, quand vous entrez dans la maison, vous choisissez de vous appeler Justine, on parlait de sadomasochisme à l'instant, c'est un hommage au marquis de Sade.
Oui, et aussi parce que Justine, ça sonne vraiment très français, et aussi parce que les Allemands sont incapables de prononcer le J, c'est-à-dire que selon les jours, selon les personnes, ça devenait Justine ou Justine, enfin, personne n'était vraiment capable de savoir quoi faire de ce J au début. Et puis oui, effectivement, c'était mes lectures de Sade, ça m'est venu comme ça, comme une évidence, même si il y avait aucune notion de sadomaso là-dedans, mais j'aime le nom, j'aimais comme il sonnait, et aussi parce qu'il sonne pas du tout comme Emma.
Donc Justine ou Justine, je sais pas comment du coup je dois le prononcer, c'est peut-être un petit peu votre nom de scène, parce que ce que vous dites aussi, c'est que pute, pour reprendre le mot que vous préférez vous-même utiliser, eh bien c'est un petit peu comme actrice, quoi.
Ben, je pense que d'ailleurs, oui, c'est vraiment au-delà du sexe, c'est vraiment un métier d'actrice, c'est-à-dire, voilà, il faut montrer idéalement pour chaque homme la même dose d'empathie, de bonne humeur, de tendresse, savoir que même si c'est le 8e client de votre journée, vous êtes la première femme de la sienne et que il y a une nécessité de garder les apparences. Enfin, c'est un boulot finalement qui n'est pas si loin du boulot de thérapeute, de masseuse. Enfin, en tout cas, c'est souvent le sexe est finalement un peu est un peu accessoire. Et puis, ça revient à ce que vous me demandiez au début. Oui, la pute est une actrice. De fait, je pense que la femme est souvent amenée à être une actrice.
Oui, d'ailleurs, aussi. Vous écrivez faire semblant, c'est peut-être inhérent au fait d'être une femme.
Ah oui,
donc c'est pas réservé au métier.
Non, je pense pas que ce soit réservé au métier. Je pense que se forcer, garder le sourire, faire en sorte que sa maison soit bien tenue. Enfin, notre vie de femme est pleine d'injonctions à ne surtout pas montrer comment on se sort à l'intérieur.
C'est pas le cas pour les hommes.
Je pense que c'est un peu moins le cas pour les hommes. Enfin, en tout cas, différemment. Je pense que les hommes souffrent aussi sous un joug différent, mais que cette injonction à faire semblant que tout va bien est peut-être plus réservée aux femmes.
Alors, Justine n'a pas découvert son métier dans la maison, on le disait tout à l'heure, mais dans un autre bordel berlinois qui s'appelle le manège. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a plutôt mal commencé, car autant on sent chez vous, en vous lisant, une forme... Oui, de nostalgie, je crois qu'on peut le dire, pour la maison, autant votre passage au manège, il a été extrêmement dur.
Oui, alors c'est drôle parce que ma mère qui a lu le livre m'a dit « mais le manège, ça m'a mis mal à l'aise et j'étais limite contente de retourner à la maison ». Alors ça m'a fait plaisir parce que c'était exactement l'effet que je cherchais. Mais c'est vrai qu'en arrivant au manège, moi, stupidement, j'ai été très impressionnée par la déco, tout ça. Ça m'a pris un certain temps pour m'apercevoir qu'en fait, ce bordel-là était à l'extrême limite de la légalité et que les femmes n'avaient pas vraiment la possibilité de dire non, n'avaient pas la possibilité de partir quand elles voulaient, de choisir leurs horaires et surtout, que les patrons, parce que c'était des hommes, voyaient les femmes comme des marchandises. Puis il y avait de la drogue, enfin, c'était vraiment une zone d'ombre et j'en suis partie très vite. Et quand j'en suis partie, je me suis dit, mon Dieu, j'espère que tous les endroits sont pas comme ça, parce que...
Vous avez pensé à renoncer ?
Bah non, pas vraiment, parce que je me doutais que ça pouvait pas être partout comme ça. D'ailleurs, la preuve, c'était que le manège était pratiquement dépourvu de clients. Donc Berlin ne peut pas être surnommé le bordel de l'Europe si tous les bordels, enfin si le manège était représentatif de la fréquentation moyenne. Donc j'ai cherché sur internet et puis en fait j'ai été à la maison directement en me disant bon bah ce sera peut-être comme ça, mais en tout cas ce sera différent.
Et vous y allez fort parce que quand vous parlez de la maison, on sent effectivement que le contraste avec le manège est extrêmement fort. Vous écrivez, s'il y a un endroit sur cette terre où nous, c'est-à-dire nous les femmes, hein, où nous sommes adorés, convoités, réputés, flattés comme d'adorables despotes, reniflés et comprises, jalousés et acceptés, c'est bien ici, à la maison. On a presque l'impression que la maison, c'est un paradis pour femmes.
Bah, paradis pour femmes, en tout cas, un paradis pour les putes qui exercent ce métier dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il faut déjà être d'accord avec le principe de maison close. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout envie de travailler dans ce contexte-là, qui préfèrent l'indépendance. Moi, c'était un contexte qui me convenait parfaitement parce que je cherchais, au fond, une espèce de famille, enfin, une communauté de femmes. Et c'est vrai que d'arriver dans cette maison qui était très kitsch, enfin, très pleine de petites fleurs, de dentelles, de trucs comme ça, qui n'était pas du tout mes goûts à la base, mais on sentait une espèce de joie de vivre, enfin en tout cas de soutien des femmes entre elles. Oui, c'était une forme de paradis.
On peut être heureux quand on est prostituée dans une maison close.
Moi je l'ai été. Je l'ai été aussi parce que c'était une époque de ma vie qui convenait, parce que j'avais pas d'enfants, parce que tout l'argent que je gagnais était pour moi. J'ai été heureuse dans ce contexte-là. Après, je ne peux pas m'exprimer au sujet des femmes qui bossaient à la maison depuis déjà une vingtaine d'années ou qui avaient moins de clients.
Vous n'êtes la porte-parole de personne dans cet ouvrage.
Non, je pense pas que non. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs pas très militante, parce que je considère que mon expérience à moi n'est pas du tout l'expérience des autres. Le système de maison close m'a convenu à moi, elle convient peut-être pas à d'autres femmes. Et vraiment, voilà, moi j'ai commencé ce livre-là en sachant que mon expérience aurait une fin, donc ça en fait déjà un contexte particulier.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Emma Becker pour son roman La Maison Paris chez Flammarion, qui nous emmène donc au cœur de cette maison close de Berlin dans laquelle elle a travaillé pendant 2 ans. Alors qu'on ne s'y trompe pas, hein, il ne s'agit pas du tout, Emma Becker, d'une apologie de la prostitution. Il ne s'agit pas du tout d'un appel à généraliser le système des maisons closes à l'allemande. Il s'agirait peut-être plutôt d'un appel à une forme de respect.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout un plaidoyer pour la prostitution, mais c'est un plaidoyer pour les femmes qui exercent ce métier et que très souvent on a tendance à réduire à des victimes ou alors des pauvres filles ou alors des nanas qui ont pas le choix. Il y a quand même une importante partie de ces femmes qui ont choisi de faire ce métier, qui en sont fières et à juste titre, parce que il me semble quand même qu'à bien des égards c'est un métier qui n'est pas très très loin de la sainteté. Je pense que ce livre-là, enfin je l'ai conçu comme ça, est un oui, un plaidoyer pour les putes, quoi, pour qu'on
pas très très loin de la sainteté. C'est quand même aller très très fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ça demande une telle abnégation de pouvoir faire ce métier dans ce contexte-là, qui est un contexte où quand même vous êtes en contact avec une moyenne de 5 hommes par jour. Ça n'est pas comme de choisir ses horaires et d'avoir un ou deux clients par semaine. Là, ça n'exige pas du tout la même résilience. Mais quand on est comme ça dans ce contexte où finalement ça ne s'arrête pas toute la journée, oui, il y a quand même une forme d'abnégation pour laquelle on n'est pas payé, qui, sans peut-être parler de sainteté, en tout cas, se rapproche de quelque chose de très, selon moi, de très christique. Mais ça n'est que mon expérience à moi.
Alors, il y a une question qui arrive tout de suite dans la tête du lecteur. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Et ce n'est pas le mot difficile, finalement, qui, bizarrement, arrive au détour du texte, mais au contraire, c'est le mot facilité. Nous sommes à la page 240 du roman.
Il suffit de regarder celles qui bossent là depuis 10 ans, depuis qu'elles ont l'âge légal, pour deviner que ce n'est pas un coup du sort fatal qui te maintient en bordel. Juste l'habitude de ce train de vie, du confort tiède qui fait tout remettre au lendemain, la facilité de cet argent. Je sais que le mot est très relatif, facilité. C'est le mot qu'utilisent les autres, ceux qui ignorent s'il est facile ou non de baiser 6 fois par jour, de sucer autant de queues et de le faire bien, avec le sourire, sans un coup de dent maladroit, sans un soupir d'impatience. Mais on sait bien, toi et moi, que tant qu'on est jolie et forte, tant que ça nous amuse et nous flatte, cet argent ne nous demandera que peu d'efforts. Alors voilà ce que j'appelle facile. J'ai le droit, moi, d'utiliser ce mot. Tant qu'une partie significative de nous-mêmes est nourrie par l'intention des hommes, par leurs désirs, tant qu'on se sent payé pour être belle et intelligente, cet argent nous paraît facile. Tant qu'on aime baiser, et Dieu sait que ça peut durer longtemps, et même lorsque ça nous emmerde, tu sais bien qu'on s'habitue à tout. Il n'y a qu'à voir le nombre de cons qui se forcent à courir et finissent par aimer ça. Et c'est bien le problème, justement, cette habitude que devient le sexe. Voilà la dure mère du conflit. Comment baiser devient du sport, de l'entraînement. Et même si c'est le plus complet, le plus divertissant de tous les sports, on ne sait plus trop à la longue quand on s'amuse et quand on fait de la compétition.
Compétition et ce rapprochement avec le sport, Emma Becker, on le trouve aussi dans d'autres passages du livre, notamment quand vous expliquez que ce métier apprend à sentir et à écouter son corps différemment. On a presque l'impression que vous évoquez des danseuses ou des sportives de haut niveau.
Bah, c'est-à-dire que je suis obligée de faire cette comparaison-là, parce qu'au bout d'un moment, avec la quantité de sexe fait qu'on ne peut pas, enfin c'est un mécanisme de survie, d'en faire une activité physique qui n'a rien à voir avec des affects ou des sensations. Effectivement, les gens ont tendance à considérer que c'est un métier facile, parce que finalement, on n'a qu'à écarter les pattes et on s'en sort avec un salaire qui est bien au-dessus de ce qu'on se ferait en travaillant dans une boutique. Il y a quelque chose qui peut-être est vrai là-dedans, mais il y a que les filles qui peuvent en témoigner. Qui sait si c'est réellement facile de faire ça avec tellement d'hommes par jour? Est-ce que c'est ça le prix du temps libre qu'on a, de la latitude qu'on a, moi par exemple pour écrire, enfin, ou des tas d'autres filles pour faire de la photo, ou tout ce qui les occupe? Je pense que le terme de facilité, il faudrait en discuter avec d'autres filles. C'est un préjugé qu'ont les gens qui ne savent pas en quoi consiste le boulot. Après, Ça reste facile quand on est jeune et jolie, comme je le dis. Une prostituée de 50 ans qui fait ce boulot depuis 20 ans n'a certainement pas le même avis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'attente, par exemple, du client, et puis surtout la panique de se demander si aujourd'hui ils vont faire du chiffre. C'est quelque chose qui est étouffant, qui étrangle l'impression de facilité qu'on pourrait avoir au début.
On a entendu Emma Becker dans l'extrait qui a été lu à l'instant à l'antenne, les mots. les mots crus, les mots sales, les mots virulents, violents, hein, qui se trouvent dans ce livre, des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude tout le temps d'entendre dans une émission de radio fut-elle culturelle. Est-ce que vous avez posé des limites au vocabulaire? Est-ce que vous vous êtes posé la question du choix des mots?
Non, absolument pas. C'est-à-dire que comme j'écris d'une manière générale sur le sexe, c'est absolument pas des mots qui, moi, me choquent l'oreille. Déjà parce que je les ai beaucoup lus, et ensuite parce que je trouve ça plus facile d'écrire « bite » ou « que » pénis, parce que je trouve que ce langage, c'est pareil. Les femmes ont besoin de se le réapproprier aussi. Vous dites qu'il y a de la violence là-dedans.
Ça claque.
Oui, ça claque peut-être, mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça claquerait pas plus d'une manière peut-être moins positif si je marquais pénis ou vagin? J'essaie de montrer que j'ai absolument aucun dégoût pour les mots du sexe. Et puis, on m'a reproché d'utiliser un langage qui est grivois. Alors déjà, je trouve que l'emploi du mot est un peu douteux. Je pense pas que mon langage soit grivois. J'essaye pas d'exciter quoi que ce soit. Je trouve simplement qu'il faut parler de manière honnête et qu'il est important que les femmes s'expriment de manière honnête sur le sexe. Certes, bite, queue, chatte sont des mots qui ont été inventés par les hommes, mais justement, c'est aux femmes aujourd'hui de reprendre, soit de réinventer un nouveau langage qui a trait au sexe, soit de se réapproprier celui-là. Et moi, en l'occurrence, j'ai l'impression que ce langage dur, j'en fais un langage tendre.
On est dans un langage très, très quotidien, parce que c'est vrai que beaucoup de gens parlent comme ça vraiment dans la vie.
Et
donc,
moi aussi,
c'est un langage très, très réaliste, d'une certaine façon. Et en même temps, un langage, on va dire, donc très oral, et puis très littéraire. En même temps, il y a énormément de références à certains écrivains, notamment à Louis Calafert, qui n'était pas du genre à se cacher derrière son petit doigt. Quelle est la tonalité, justement? Ça fait plusieurs fois que j'emploie le mot tonalité, mais c'est vrai que c'est très étonnant. On parlait de la musique tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a vraiment un ton qui se dégage du roman. Quelle impression générale vouliez-vous donner à vos lecteurs ou à vos lectrices?
C'est vrai que vous parlez de Calafert. Moi, c'est un auteur que j'adule. Enfin, son Septentrion ou ce mélange de vulgarité et d'extrême dextérité par rapport au langage, c'est quelque chose qui me laisse admirative. Mais j'avais envie avant tout qu'on se sente chez soi dans ce livre, c'est-à-dire que le langage ne donne pas l'impression que j'essaye de parler mieux que la manière dont je parle normalement. Et j'avais envie qu'on se sente proche de ce que je raconte. Et je trouve que des mots, des termes médicaux ne font rien pour arranger la distance entre un lecteur et son écrivain. J'avais envie qu'on se sente comme si je vous racontais une histoire et qu'on était assis à un bar, quoi.
Alors, dans la maison, on croise Agneta, Fauna, Tinky, Birgit, Lorna, Svetlana, qui disparaît un beau jour sans laisser d'adresse, Vilma, Aiko, Victoria, Lotte, quelques autres, hein, chacune avec son parcours personnel, avec ses spécialités professionnelles, avec ses qualités et ses défauts, comme n'importe qui. Par exemple, il y a Dorothée, avec qui les relations sont un petit peu compliquées. Il y a Pauline, qui est l'autre française, hein, que vous retrouvez. Et évidemment, comme elle est française, vous allez un petit peu vous rapprocher, puisque la barrière de la langue tombe. En plus, on apprend au détour d'une phrase que vous n'êtes pas une germanophone parfaite, loin s'en faut. Tous ces personnages-là extrêmement différents, dont on a compris que c'était peut-être des personnages qui avaient été reconstruits, reconstitués, etc. Est-ce que vous avez compris pourquoi ces femmes-là étaient précisément là, avec vous, dans la maison?
Parce que je pense que ce qui nous rejoignait, c'est d'avoir envie de travailler dans un endroit où on se sentait bien, où on voyait pas forcément le temps passer, où on avait la liberté de discuter ensemble. Parce qu'au manège, par exemple, les nanas ne discutaient absolument pas ensemble. Et pour des raisons que je comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait une compétition énorme entre les femmes, puisqu'il n'y avait pas un seul client. La maison étant un bordel bourgeois, elle avait sa clientèle régulière, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et les femmes représentaient un tel panel, on était tellement différentes les unes des autres, qu'en fait, l'ambiance était au beau fixe. Après, la capacité de dire non, par exemple, sans avoir besoin de se justifier pour ça, la capacité de dire aujourd'hui je viens pas, sans avoir besoin de se justifier non plus, et que les dames qui s'occupaient de nous étaient aussi très compréhensives, très drôles. Moi, je pense que ce qui rejoignait ces femmes entre elles, c'était l'ambiance d'amitié, enfin en tout cas de sororité, quoi, d'être réunies ensemble parce qu'on fait ce boulot et qu'on mérite le même respect que n'importe quel autre corps de métier.
Et les sœurs, comme vous dites, portent un regard regard à la fois acéré et sans complaisance sur les clients, hein, que comme vous dites, parce que les destins que vous évoquez sont toujours liés à leur vécu, évidemment, dans le cadre de leur métier, donc à leur relation au singulier ou au pluriel avec les différents clients. Il y a des récits assez bien sentis, souvent extrêmement poivrés, dirons-nous, et c'est vrai qu'il y a un mot que l'on sent tout de suite arriver, que vous écrivez dans le roman, mais même quand vous ne l'écrivez pas, on le sent affleurer entre les lignes, c'est le mot « mépris ».
Ah oui, et bah c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de la dimension christique du boulot par rapport à l'empathie, mais c'est vrai que le métier exige quand même, enfin je précise, le métier dans ce contexte de maison close exige un espèce de mélange d'empathie et en même temps le mépris ou en tout cas l'humour hein, noir est aussi une nécessité, parce que quand vous avez ces hommes qui tous les jours viennent vous voir avec avec peut-être leur misère, leur solitude, leur malheur, leur maladresse, il faut quand même se bâtir une armure professionnelle qui n'est pas différente de celle des médecins qui ont tous les jours contact avec la mort, c'est-à-dire il faut une forme d'humour. Peut-être que c'est un humour un peu méprisant, mais qui n'empêche absolument pas les filles de faire leur boulot et de revoir pendant 6 mois les mêmes clients qu'elles donnent l'impression de mépriser.
Mais le mépris, ça veut dire qu'on se place en position plus élevée que celui dont on parle, comme si on a un peu l'impression que le mépris, c'est une façon de garder le contrôle, une façon de clamer sa dignité aussi.
C'est-à-dire que comme c'est un métier où on est censé satisfaire les besoins du monsieur qui est là devant vous, il suffit que ce monsieur soit un peu maladroit ou ait un côté un peu grotesque, on est obligé d'en parler entre nous. Enfin, je veux dire, ce mépris donc que vous évoquez a, je pense, aussi une vocation cathartique. C'est pas un véritable mépris, c'est-à-dire c'est un mépris conjoncturel qui passe à la fin de la journée. Après, position de supérieur. Bah oui, vous évoquez certaines scènes où c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher en tant que femme de se sentir supérieure à l'homme.
Voilà, quand certains clients viennent apprendre des choses de la vie, quoi.
Par exemple,
notamment, mais aussi quand il y a des amoureux transis. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a par exemple ce médecin qui vient voir l'une des filles qui entame avec elle une vraie romance et qui est absolument mais dévastée dans sa vie personnelle lorsque la fille qu'il a adulée, dont il est vraiment tombé éperdument amoureux, ne veut plus de lui et s'en va. Ils sont pathétiques, les clients, Emma Becker.
Bah, c'est pas eux qui sont pathétiques, en fait. C'est cette espèce de malentendu de base, c'est-à-dire qu'on est en droit de penser que quand un homme paye une femme, il sait très bien qu'il la paye pour un temps donné, dans un contexte donné. En réalité, on s'aperçoit que l'argent que les hommes donnent ne les empêche aucunement de tomber amoureux. Ce serait peut-être d'ailleurs même plus facile, parce qu'il y a chez les hommes comme chez les femmes un besoin de donner une substance à ce qui n'est finalement qu'une friction mécanique. C'est-à-dire que ça n'est jamais vraiment que du sexe. Le sexe sous-tend tellement d'affects, tellement de choses qui ont à voir avec la confiance en soi, avec avec un bonheur même superficiel, que oui, effectivement, il y a des embryons de romance et les filles, c'est difficile aussi pour elles d'expliquer à un homme que bon, bah, c'est pas qu'elles jouent la comédie, c'est-à-dire que ils payent pour quelque chose, pour une certaine dose d'amabilité, d'empathie. Mais l'homme repart de là avec la fille en tête et ça ne s'arrête pas pour autant.
Mais pour la fille, c'est relation personnelle et émotionnelle interdite.
Moi, ce que j'ai vécu, après, peut-être que les filles, d'autres filles pensent différemment, mais il y a quand même un moment où, toujours par ce mécanisme de survie, en fait, les clients deviennent des clients, c'est-à-dire que les hommes qui arrivent, même si vous les avez jamais connus, le simple fait qu'ils payent pour vous voir, ça les met dans le même panier, c'est-à-dire que ça devient des clients. C'est pour ça que j'évoquais cette indifférence qu'on est obligé de se bâtir. Et moi, je me suis aperçue en ressortant du bordel, quand la maison a fermé, que brusquement, mon indifférence avait complètement disparu et que les sensations et mon désir des hommes et mon besoin de tous les différencier les uns des autres revenaient, mais comme le printemps après un hiver compliqué. Pour moi, c'était ça la difficulté de ce métier.
Mais un client, il peut aussi dire « je t'aime » à une pute qu'il a payée.
Ah bah oui.
Et vous citez Radiguet, alors c'est pas du tout au même instant du roman, et vous citez Radiguet qui écrit: quand on dit je t'aime à une femme, on peut penser l'avoir fait pour un tas de raisons extérieures à l'amour, on peut penser mentir, pourtant quelque chose à cet instant nous a poussé à dire je t'aime, et par conséquent c'est vrai. C'est une phrase que vous citez au début, au début du roman. Est-ce que cette phrase de Radiguet s'applique aussi à la relation entre une prostituée et son client ?
Ben oui, j'imagine dans un sens, parce que le « je t'aime » qu'un homme peut lâcher en plein acte sexuel, par exemple, en plein orgasme, et peut-être un « je t'aime » qui paraît superficiel, mais il y a bien un moment donné où cette sensation a été vraie. Et je pense que quand on va jusqu'à dire « je t'aime », c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça d'un moment ou un autre. Ça prend du temps pour s'évaporer. Et après, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on a dit « je t'aime ». Et finalement, l'amour et le fait de tomber amoureux, c'est aussi beaucoup de l'introspection. Donc c'est nourri par son... par les questions qu'on se pose soi-même sur... là-dessus, quoi.
You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle, toe to toe. Sleep, my love, my love, love, love. She bruises calls, she's blooded pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love.
Brice Blocks, Alger dans VMDN sur RFI avec Eva Becker qui publie La Maison chez Flammarion. Alors ce qui est aussi difficile, et il y a des pages là aussi très fortes dans ce roman Eva Becker, c'est la vie privée, la vie intime de vos héroïnes. On se rend compte que c'est extrêmement difficile d'avoir une vie intime à côté de cette profession. Alors vous allez me dire, c'est le cas pour beaucoup de femmes hein, qui travaillent, c'est pas toujours facile de combiner vie privée, vie publique, mais là, on est vraiment au cœur finalement de ce qu'est l'amour, au cœur de ce qu'est le sexe. On a un peu l'impression en vous lisant qu'être prostituée, c'est être obligé dans la vie quotidienne de renoncer à une forme d'amour. Dans sa vie à elle, dans sa vie intime.
Oui, c'est-à-dire que... Oui, et le stigmate est tel aussi qu'effectivement, c'est compliqué de rencontrer une personne qui accepte de partager une vie comme ça, où finalement, on est payé à faire quelque chose qu'on fait gratuitement à la maison. C'est un métier qui implique quand même une... Enfin, moi, j'ai trouvé une certaine solitude, puisqu'au bout d'un moment, le désir spontané, son désir à soi... s'émousse fatalement face à la quantité de sexe, le besoin d'être indifférente. Pour moi, c'était cette difficulté du métier. C'était la grande solitude.
Donc il y a l'histoire que vous racontez entre Hildy et un homme qui s'appelle Yann. Elle est vraiment très 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 amoureuse hein, de ce Yann. Hildy est la première fois, alors que c'est ça qui est curieux, parce que c'est une femme qui fait l'amour tarifé de nombreuses fois dans la journée, mais la première fois avec Yann, c'est un moment incroyable.
Oui, alors ça c'est une scène que j'ai romancée aussi. Enfin, je voulais vraiment.
C'est une scène de cinéma.
Ah, vous trouvez?
Ah oui,
ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que une espèce de magie, enfin que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire que peu importe l'indifférence et l'armure que vous construisez en faisant ce métier, en fait, à partir du moment où vous ne le faites plus, on pourrait penser, oh là là, pauvre, combien d'années il va falloir pour se reconstruire. Moi, c'est quelque chose qui m'a prise à la gorge immédiatement. J'ai une espèce de bonheur, enfin de jubilation à retrouver mon désir intact, moi-même, et même mon désir augmenté, en fait, d'avoir été comme ça, entre guillemets, tenue en cage pendant 2 ans et demi et de devoir m'étouffer moi-même, enfin en tout cas m'oublier. C'était une espèce de renaissance que je trouvais absolument fascinante.
Votre regard sur le métier, sur la prostitution, est-ce qu'il a changé, Eva Becker, pendant ces 2 ans et demi? Est-ce que vous êtes sortie différente de la maison?
À titre personnel, enfin à titre intime, j'ai l'impression d'avoir été, j'ai l'impression de m'être enrichie, enfin d'avoir une meilleure compréhension de mon désir, de mon plaisir, parce que c'était vraiment une expérience aussi, une expérience intérieure, de voir comment peut-être s'oublier permet de mieux se comprendre, enfin. C'est ma théorie, mais voilà, je me suis trouvée moi enrichie aussi parce que j'avais la chance d'avoir choisi le contexte dans lequel je voulais faire ce boulot. Mais l'amour que j'avais pour les femmes qui font ce métier, qui est aussi un amour motivé par le fait que le reste du monde leur crache dessus, c'est quelque chose qui n'a pas changé, qui s'est aussi enrichi parce que je sais maintenant ce que sous-entend ce métier-là, ce que ça demande d'oubli de soi, d'abnégation. Et surtout de vivre en courbant le dos toute la journée sous le regard et la commisération des autres.
Nous sommes page 335 de votre livre.
Il est par moments difficile de prétendre oublier ce qu'est la prostitution. On regarde entre ses jambes toute cette chair qui remue. On écoute les bruits laborieux, outranciers, exténués que l'on produit sans même y penser. On réalise à quel point tout cela au fond est absurde. J'allais écrire, je le sentais au bout de mes doigts. Que notre épuisement doit se rapprocher de celui du nounou forcé à jouer inlassablement avec les gamins des autres, à satisfaire leurs multiples exigences, à contenir son ras-le-bol. Dieu sait que, dans ma tête, les deux activités exigent la même énergie sacrée, la même abnégation. Mais je doute fort qu'il existe sur cette planète une fatigue comparable à celle des putes, même au sein des professions les plus physiques. Sans même évoquer l'énergie mentale qui est mobilisée pour faire la conversation à 8 mecs différents, pour être également aimable et souriante avec chacun. Une énergie titanesque. Nul ne sait à quel point le corps est relié à la tête après 8 hommes, à quel point le vagin est fatigué, et ce que c'est d'ouvrir obligeamment ce vagin et de contenir sa colère à chaque coup de rein, chaque fois que la queue vient en frapper le fond, comme un énième coup de poing dans la gueule engourdie d'un homme battu à mort. Au fond, on ne sent plus rien, ou juste les mauvaises choses. Ce qu'il subsiste de nerfs réveillés ne transmet plus au cerveau qu'une sensation d'intrusion, un inconfort qui pourrait devenir un supplice, qui a dû en être un à l'époque où le lubrifiant n'existait pas. Ça aussi. La violence de soi contre soi. Cette résignation quand on enduit son vagin de lubrifiant pour que ça continue à passer envers et contre tout. Pour taire les contractions réflexes. Et quand on a du mal à sourire encore. Qu'au moins, ce sourire-là reste éclatant. Cette violence-là, c'est nous, les femmes, qui nous l'imposons. En nous répétant que ce trou-là est déjà fait. Qu'il est fait pour ça. Et si c'est déjà la 8e fois pour toi, pour lui, c'est l'apogée de sa journée. Il n'y en aura pas d'autre. Pense à lui. Pense à lui. Puisque penser à l'argent n'a rien de réconfortant. Ce sens du sacrifice qui nous fait tendre l'autre joue pour qu'eux, au moins, soient heureux.
Vous parliez de la dimension christique tout à l'heure. Oui. Emma Becker, est-ce que être prostituée, c'est se sacrifier?
Alors là encore, dans ce contexte-là, oui, il y a quand même, j'imagine, une forme de sacrifice. Et puis, vous savez, il y a des mauvais jours comme dans n'importe quel boulot. Moi, je suis serveuse aussi. Il y a aussi des jours où les clients, on pourrait tous les étrangler. On ne sait pas pourquoi. Le trop-plein fait que il y a des jours où vraiment on se dit mais qu'est-ce que je fous à faire ce boulot-là. Et puis c'est quand même louer une partie de soi, enfin une partie de son intimité qui est tellement riche que forcément le ras-le-bol physique se mêle à un écœurement psychologique, et que quand on travaille dans une maison close, on n'a pas non plus la possibilité de dire oh bon aujourd'hui bon je vais faire que 2 clients. Donc le ras-le-bol dont je parle, c'est aussi un ras-le-bol qui est très lié au contexte dans lequel j'ai pratiqué ce métier. Si j'avais pratiqué ce métier en indépendante et que je choisissais de demander beaucoup plus d'argent et d'avoir que 1 ou 2 clients ou 3 par semaine, c'est effectivement pas du tout le même ras-le-bol. On a beaucoup plus de patience, j'imagine.
Alors vous êtes sacrifié, Emma Becker, pour vos clients, pour vous ou pour la littérature? Les 3 peut-être?
J'ai pas eu vraiment l'impression de me sacrifier parce que je pense que ces 2 ans et demi étaient les deux années et demie les plus fascinantes de ma vie. pour la littérature peut-être, oui, mais aussi pour ces femmes, parce que voilà, enfin pour ces femmes, pour elles, pour nous, enfin quel que soit le nom que je peux y donner, c'est-à-dire j'avais envie de faire justice à ces nanas comme moi qui ont choisi de faire ce boulot, et j'avais envie que pour une fois il y ait un regard de femme qui se pose sur ce coin-là de la littérature qui jusqu'à présent n'appartenait pratiquement qu'aux hommes.
Alors pourtant ça n'a pas été facile visiblement au début, parce que vous parlez de débloquer le processus d'écriture, ce qui signifie que au départ ce processus-là était bloqué. Qu'est-ce qui bloquait au début?
En fait, je venais de finir mon deuxième bouquin et ça avait été une écriture difficile, laborieuse. J'y avais passé beaucoup de temps et c'est vrai que je suis arrivée à Berlin en me disant mon Dieu, j'espère ne pas retomber dans une période de 3 ans où je saurais absolument pas quoi écrire. Et c'est vrai que quand je suis passée devant ce premier bordel et que tout à coup les éléments se sont collé, et je me suis dit, mais attends, tu viens de trouver une façon d'écrire un livre passionnant, enfin en tout cas c'est ce que j'espérais, et dans le même lieu de gagner ta vie d'une manière que tu avais toujours envie d'essayer, et qui était pour moi le compromis idéal, puisque ça me permettait de gagner ma vie en écrivant mon livre, et il me restait un temps libre, une marge de manœuvre, pour moi c'était un compromis idéal, d'ailleurs je vois pas, enfin ce serait difficile de dire le contraire, hein, quand on est une femme artiste.
Mais comment vous avez fait concrètement? Vous avez pris des notes en permanence, à chaque fois que vous rentriez chez vous, vous aviez comme ça un bloc-notes planqué sous votre lit, vous avez travaillé de mémoire, comment ça s'est passé?
Alors le manège par exemple, je me souviens avoir tout écrit un été dans une espèce de transe, et le reste du temps non, je pense que j'ai une très bonne mémoire, qui garde beaucoup d'images, d'odeurs, et j'avais pas une nécessité d'écrire tous les jours, c'était vraiment comme ça me prenait, j'ai pas beaucoup de discipline là-dessus.
Pour vous, Emma Becker, est-ce que les prostituées, est-ce que les bordels sont utiles à la société?
Je pense pas que ce soit une question d'utilité, je pense que c'est une question de bon sens. On ne peut pas abolir la prostitution, on ne la fera jamais disparaître, ou alors il faudrait faire disparaître le désir des hommes pour les femmes, et le désir des femmes d'être indépendantes et de pas s'escrimer dans des boulots qui les emmerdent, et d'avoir du temps pour faire exactement ce qu'elles veulent. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire semblant que ça n'existe pas, et on se retrouve avec des filles égorgées dans les bois, à qui on a piqué tous leurs chiffres du soir, des histoires absolument abominables, ou est-ce qu'on se pose en adulte pour réfléchir, et qu'on décide que peut-être personne n'a le droit de décider pour ces femmes, ce qui les traumatise, et que peut-être louer leur corps et louer une partie de leur intimité, c'est un compromis qui leur semble pour elles tout à fait acceptable.
Berlin, c'est un modèle ?
Mais le modèle allemand n'est pas parfait du tout. D'ailleurs, en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mais en tout cas, le principe de légalisation n'est jamais mauvais. C'est un boulot qui n'avancera pas tant qu'on n'aura pas légalisé. On ne peut pas faire en sorte que les nanas travaillent dans des conditions dignes si on continue à criminaliser cette activité qui est vieille comme le monde. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est assez étonnant, c'est que finalement, devoir faire l'amour, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière générale à la maison. À partir du moment où on commence à demander une rétribution pour ce qui est souvent considéré comme un service acquis par les hommes, là, ça devient scandaleux.
Merci beaucoup, Emma Becker. La question du jour pour gagner la maison parue chez Flammarion, écoutez bien, répondez sur la page Facebook de VMDN. La question est la suivante. Quel est le nom qu'Emma Becker a choisi quand elle était dans la maison? Comment l'appeler ses clients? À vos claviers, à vos messages privés sur Facebook, et bravo à nos gagnants de jeudi dernier, Christian de Kinshasa, Aloïs de Cotonou, Yacine de Paris et Anissette de Porto Novo au Bénin. Ils vont donc recevoir l'album de BD Il était deux fois Arthur de Ninantico et Grégoire Carlet. À demain pour un nouveau numéro de VMDN. Dans un instant, l'info sur RFI.